Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Voilà, donc engagé sur un chemin de liberté dans lequel il est, s'il l'accepte, régénéré par la grâce divine, l'homme est tenu, s'il veut avancer sur ce chemin, on a déjà eu cet écho ce matin, de mener un combat à la fois contre lui-même et contre les puissances qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et donc, personne d'entre nous ne peut faire l'économie, nous savons bien, de ce combat spirituel qui ne cessera qu'au jour de notre Pâque personnelle. Tous appelés à la sainteté, les chrétiens doivent accepter de passer par le chemin où le Christ les a précédés. Bon. Le catéchisme encore le rappelle dans les paragraphes qui suivent ceux que nous avons parcourus à la fin de la matinée. Donc c'est la citation 1, le paragraphe 2015. Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique la cèse et la purification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Et à la suite de ça, il y a une citation de Grégoire de Nice dans son homélie sur le Cantique des Cantiques. « Celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. » Jamais celui qui monte ne s'arrête de désirer ce qu'il connaît déjà. À cet extrait de Saint Grégoire font écho évidemment de nombreuses citations des pères de l'Église et ou des grands spirituels. Par exemple, Origène, dans l'une de ses homélies, il interpelle son auditoire vigoureusement en ces termes. C'est la citation 2. Dieu n'a pas créé la mort, il n'a pas créé le mal. Mais il a laissé en tout la liberté à l'homme comme à l'ange. Ainsi, par la liberté, les uns s'élèvent jusqu'au sommet du bien, les autres se précipitent dans l'abîme du mal. Mais toi, homme, pourquoi refuses-tu ta liberté? Pourquoi ce déplaisir d'avoir à t'efforcer, à peiner, à lutter et à devenir l'artisan de ton salut? Aimerais-tu mieux peut-être te reposer dans le sommeil d'une existence paresseuse et d'un éternel bien-être. Mon Père, est-il dit, est continuellement à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre, et il te déplaît d'œuvrer à toi qui a été créé pour créer positivement. Voilà. Donc, encore un qui n'aime pas les paresseux. Les pères du Concile Vatican II ne disent pas autre chose dans la Constitution apostolique Gaudium et Spes, citation 3, un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès l'origine, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans la bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et ce n'est qu'au prix de grands efforts avec la grâce de Dieu qu'il parvient à réaliser son unité intérieure. On peut parler, comme le fait un diacre, Christian Poirier, dans un livre très riche, jetez un coup d'œil, c'est un diacre, hein. Ça a été publié en 2008 avec une deuxième édition en 2010, Le combat spirituel de l'ombre à la lumière. Et je m'inspirerai de ce livre largement, comme ce matin je me suis inspiré du livre de Jean-Miguel Garrigou. Donc il dit, on peut parler d'une véritable pédagogie divine par laquelle Dieu libère progressivement l'homme de toutes ses idoles, et cela à travers diverses purifications que nous connaissons, dont nous savons qu'elles existent, tantôt des purifications actives, tantôt passives, ce que saint Jean de la Croix, dans son traité La Nuit Obscure, appelle des nuits, nuit des sens et nuit obscure de l'esprit. Et le Christ, dit Christian Poirier, est un divin pédagogue qui, citation 4, vient restaurer l'image de Dieu en nous par son enseignement, source de lumière, par la gestuelle expression de son amour, par les signes au travers desquels il veut toucher notre cœur. Comme le disait de son côté, de manière assez hardie, Saint-Irénée est très, a des formules percutantes, on le sait, le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme. C'est assez amusant de dire accoutumer Dieu à habiter dans le cœur de l'homme. Dans l'homme, selon le bon plaisir du Père. On voit la pédagogie divine du Christ à l'œuvre, par exemple, dans sa rencontre avec la Samaritaine, au chapitre 4 de saint Jean. Vous savez, il éveille progressivement la soif de Dieu chez cette femme qu'il a rencontrée, et il l'amène, en définitive, au bout, à changer radicalement de vie. C'est un peu la même chose avec les apôtres. Avant de les envoyer en mission, ils invitent d'abord à entrer dans l'intimité avec lui, à demeurer avec lui. Et pour les choisir, on a entendu dans l'évangile de ce matin, il prie le Père très longtemps, une nuit entière. Il montre lui-même l'exemple d'un très rude combat avec le démon, comme je dis ce matin dans l'homélie, lorsqu'il se laisse conduire par l'Esprit-Saint au désert. Et c'est la citation 6 de ce diacre. Le désert est le lieu où Dieu nous parle. Il est le lieu, et c'est pas le seul à le dire, hein. Il est le lieu de la rencontre, mais il est aussi le lieu de l'aridité et du dépouillement. Par conséquent, il devient le lieu de l'épreuve et de la tentation. Saint Luc nous dit, comme je l'ai rappelé ce matin, que, ayant épuisé toute tentation, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment favorable. Chapitre 4, verset 13. Ça n'empêche pas que, malgré tout, il va chercher à tenter Jésus par des intermédiaires, non plus directement comme dans le combat au désert, mais par des intermédiaires, et le pire, on peut dire, c'est à travers les apôtres. C'est le cas de Pierre, lorsque Pierre lui donne des conseils, au chapitre 16 de saint Matthieu, voici que, juste après avoir fait sa profession de foi, ce qu'on appelle la profession de Césarée, c'est-à-dire tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, après il lui dit, ah ben non, tu vas pas aller souffrir et tout ça. Et évidemment, Jésus lui dit, va-t'en en arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc à travers les apôtres eux-mêmes, à travers les propos des scribes ou des pharisiens, par exemple, quand les scribes et les pharisiens le mettent à l'épreuve, comme ce matin on l'a vu, en lui présentant la femme adultère. Voilà. Donc ils mettent à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il va faire, le rabbi, là-dessus? Ou bien, encore, comme, quand il demande, comme c'était l'évangile de dimanche dernier, au chapitre 22 de saint Matthieu, est-ce qu'il faut payer l'impôt impérial? Faut-il payer l'impôt? Il pense le piéger. Mais bien sûr, s'il est une tentation suprême, on peut dire qu'elle surgit pour Jésus, surtout. Enfin, après, on peut discuter sur la croix, la déréliction sur la croix dont parlait hier Jean-Claude, mais aussi, en tout cas, dans la nuit de Gethsémani, avec cette citation que j'avais donnée ce matin dans l'homélie, dans la nuit de Gethsémani, où il livre ce terrible combat, dont évidemment on n'a pas idée, pour que sa volonté humaine accepte de boire cette coupe qu'il avait d'abord demandé au Père d'éloigner de lui, pour que sa volonté humaine ne veuille plus que faire la volonté divine aimante du Père. Donc, citation 7, je répète ce que j'ai dit ce matin, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. C'est en Jésus et en lui seul que nous trouvons secours dans nos propres tentations. Lui seul et l'Esprit Saint, bien sûr, peuvent nous enseigner comment les vaincre, comment vaincre les tentations, comment échapper aux démons qui les inspirent, comment échapper en particulier au très grand péché qu'est l'orgueil spirituel, et en mettant tout notre espoir en la miséricorde divine. Souvenez du psaume « Seigneur, préserve ton serviteur de l'orgueil, il sera préservé d'un grand péché ». À peu près ça. Alors notre propre combat spirituel va donc passer par plusieurs choses, mais je vais rassembler ensuite, parce que vu le temps dont on dispose, on ne peut pas tout faire. Donc ça passe d'abord par une compréhension du mécanisme de la tentation et de la nécessité du discernement par rapport à cette tentation. Deuxièmement, par une réflexion aussi sur les maladies de l'âme et sur la manière d'en être victorieux ainsi que les tentations. Alors, je ne pourrais pas développer ce point parce que ça ferait trop, mais on peut en parler dans l'échange, les maladies de l'âme, c'est-à-dire ce qui mène aux péchés capitaux, hein, les sept péchés capitaux. Et enfin, par un rappel du secours que nous recevons de la grâce et des armes dont elle nous pourvoit pour le combat spirituel. Alors, j'ai divisé l'affaire là, en deux grandes parties, le mécanisme de la tentation et la nécessité du discernement. On va retrouver des choses qu'on a déjà dites hier ou encore ce matin, mais bon, disposer autrement. Et puis, en conclusion, et j'ai quasiment photocopié la conclusion, plus ou moins, ou reproduite, les secours et les armes qu'on a dans le combat spirituel. On les connaît déjà, j'ai fait un peu une énumération, et ça puisse éventuellement entamer une discussion. Lorsqu'on récite le Notre Père, donc le mécanisme de la tentation d'abord, lorsqu'on récite le Notre Père, comme Jésus nous l'a appris, on dit dans la sixième demande du Notre Père, parce qu'il y a plusieurs pétitions, plusieurs demandes, « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. » J'ai pris la nouvelle traduction liturgique, qui doit démarrer, je pense, en avant, qui en fait correspond assez bien au texte grec, car le texte grec, mot à mot, nous dit « Ne nous emporte pas dans l'épreuve. » Pas tout à fait la même chose que... Bon. Et donc, on doit nous interroger sur ce qu'est vraiment la tentation, sur comment elle survient, par qui elle survient ou par quoi elle survient. Évidemment, d'autres questions sont liées à celle-ci. Sur quoi l'homme est-il tenté? Et aussi, que faire pour ne pas succomber? Et enfin, comment l'homme est-il délivré de la tentation et du mauvais? Vous avez ça résumé, enfin, reproduit à la citation 8. Le texte grec du Notre Père, comme je viens de dire, équivaut à « ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve ». Naturellement, Dieu ne peut en aucune façon tenter personne. Ah, ça, il faut quand même le dire, parce que... étant lui-même innocent du mal, comme on l'a vu ce matin. Et Saint Jacques dit dans sa lettre, lettre de Saint Jacques, c'est la citation 9, chapitre 1 de Saint Jacques, versets 13 à 15, que nul, s'il n'est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve ». Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne, c'est ce que dit Saint Jacques. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis, la convoitise ayant conçu, donc au départ, ce n'est pas en soi un péché déjà, mais ayant conçu, la convoitise donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. C'est Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. En d'autres termes, Dieu n'éprouve pas directement. Il permet l'épreuve pour sonder notre vertu. Saint Thomas d'Aquin le dit à sa manière, c'est à la citation 10. Si, en premier lieu, on vous éprouve pour savoir si vous êtes prompt à vous porter au bien, comme par exemple à jeûner, et si on vous trouve effectivement prompt au bien, ce sera le signe que votre vertu est grande. C'est de cette façon que Dieu éprouve parfois l'homme. Ce n'est pas qu'il ignore sa vertu, mais il veut la faire connaître à tous et à tous la donner en exemple. Dieu... Comment ?
C'est difficile.
C'est difficile à comprendre.
Hein. Que Dieu n'éprouve pas, en fait.
Oui.
Il séduit quand même. Est-ce que la séduction...
Écoute, moi, je lis saint Thomas d'Aquin. Hein. C'est une question qu'on peut, sur laquelle on peut échanger. Mais moi, j'essaie de comprendre ce que disent les gens qui s'y connaissent. Voilà. Dieu éprouva de cette manière Abraham et Job, dit saint Thomas. Souvent, en effet, le Seigneur envoie des tribulations aux justes. Quand même, il dit ça. S'il les supporte patiemment, je pense, les gens, s'ils supportent patiemment, leur vertu est manifestée et ils progressent dans la vertu. Le Seigneur vous éprouve, disait Moïse aux Hébreux, afin de faire apparaître au grand jour si oui ou non vous l'aimez. C'est donc de cette manière seulement que Dieu éprouve l'homme, à savoir en l'incitant au bien. Alors on peut revenir sur cette citation. Moi, c'est une citation de saint Thomas, reproduite par le copain là, bon. Le Christ lui-même a éprouvé ses disciples. Par exemple, on prend un exemple dans Jean 6, 5 à 9, au moment de la multiplication des pains. Il dit à Philippe quelque chose comme « Comment on va faire pour nourrir tous ces gens ?» Il pose la question à Philippe. Il attend de voir ce que Philippe va lui dire. Et Poirier, là, dit, il nous éprouve pour que Dieu nous éprouve pour que nous allions toujours plus loin dans l'amour, que nous n'arrêtions pas de suite. Et comme le précise encore saint Thomas, c'est la citation 11, Dieu est incapable de tenter en poussant une personne au mal. Sa propre chair, alors voilà, les trois causes de tentation, d'après saint Thomas, et on va les voir, sa propre chair, le diable et le monde. Voilà les tentateurs de l'homme. Trois éléments. On peut discuter. Hein. La tentation, c'est la corruption d'un désir qui naturellement devrait nous inciter au bien. Donc c'est un désir qui devrait nous pousser au bien, qui est corrompu, mais qui se trouve transformé, comme l'affirme saint Jacques, en convoitise mauvaise. Au départ, c'est un désir qui devient une convoitise mauvaise. Plusieurs pères du désert... Alors, qui sont cités par cet ami-là, donc, enfin, l'ami, je ne le connais pas, mais c'est ce diacre. Alors, il cite deux personnes que moi, je ne connais pas, Isaïe de Cété et saint Hézéchius de Batos. Alors, citation 12, c'est Isaïe de Cété. Il y a dans l'esprit le désir conforme à la nature, source de charité, et à cause duquel Daniel est appelé homme de désir. Ce désir, l'ennemi l'a transformé en désir honteux qui nous porte à convoiter tout ce qui est impur. Et puis, saint Hézéchius et Hézéchius de Batos, dans la Philokalie, de l'oubli, bon, première chose, nous tombons dans la négligence, de la négligence dans le mépris, l'insouciance et les convoitises déplacées. Aucune tentation ne s'opère donc, c'est compréhensible, sans notre nature humaine. Et il est bien clair que notre psychologie joue toujours un grand rôle dans le processus de la tentation. Dans la Bible, comme dans la tradition mystique, on peut voir qu'il y a trois grands ennemis de l'âme, qu'on a déjà énumérés, le monde, le diable et le vieil homme. C'est ça la chair, c'est le vieil homme. Qui sont tous trois figurés dans la parabole du semeur. Les trois types de personnes tombent en terre. D'abord, hop, c'est sur la rocaille, ça donne rien. Ensuite, c'est sur le côté, alors ça pousse un peu, mais ça n'a pas de racine en soi-même, donc ça ne produit pas. Et puis enfin, alors j'en oublie encore un. Il faudrait regarder là. On reviendra dessus après. Hein. Donc. Si on a le temps, on pourra donc reprendre ce texte dans la discussion. Comme on vient de dire, les mystiques, ils ont bien repéré ces étapes. Par exemple, s'il y a bien un mystique qui est mystique sûr, c'est saint Jean de la Croix. Et citation 14. « Tous les dommages que reçoivent l'âme proviennent de ses trois adversaires, à savoir du monde, du démon et de la chair. Le monde, dit saint Jean, est l'ennemi le plus faible. » Le démon est plus difficile à découvrir, et on pourrait penser que c'est lui le plus, il est plus difficile à découvrir, mais le pire, c'est la chair. La chair, c'est la plus opiniâtre de tous, et ses assauts durent tant que le vieil homme subsiste, jusqu'à extinction du vieil homme. Or, pour surmonter ces trois ennemis, il faut les terrasser tous les trois. L'un d'entre eux étant affaibli, déjà, les deux autres manquent de force. Et quand les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. On doit se dire, si on arrive à ça, c'est qu'on est quand même pas loin de la fin, quoi. Parce que... Je voudrais pouvoir lui poser la question à Saint-Jean de la Croix, mais... Voilà. Alors, le monde, d'abord. Le monde nous tente de trois façons. D'abord, par un désir excessif et immodéré des choses temporelles. L'épisode du jeune homme riche, qui dans l'évangile, en Matthieu 19, 16, 22, est trop attaché à ses biens pour suivre le Christ, il n'est pas reparti tout triste, c'est un bon exemple. Il est finalement trop attaché aux choses temporelles pour pouvoir suivre le Christ. On ne sait pas ce qu'il a fait après, mais en immédiat, c'est ce qui se passe. Deuxièmement, et c'est saint Thomas qui le dit, par les frayeurs que nous inspirent les persécuteurs. Ça, c'est pour les chrétiens. On a peur de souffrir. On a peur d'être persécuté. Et donc, on peut mettre sa foi sous le boisseau. Hein, plus dire qu'on est chrétien, etc. Que la persécution soit terrible, martyr, comme les deux apôtres de ce matin, et puis tous les apôtres, en fait. Ou bien que ce soit des petites persécutions, on pourra en parler tout à l'heure. Troisièmement, eh bien, sous l'influence de Satan. Le monde peut tenter les chrétiens par de fausses doctrines. C'est-à-dire, sous l'influence de Satan, il peut tenter les chrétiens par de fausses doctrines. Les exemples ne manquent pas, aujourd'hui même. Hein? Alors, d'abord, dans l'histoire des hérésies à travers les siècles, ça, il y a plein d'hérésies, mais par l'observation de notre monde contemporain. On peut penser, par exemple, de façon assez évidente, aux doctrines du Nouvel Âge, qui sont typiquement des choses inspirées par le diable, pour tromper les gens sur la vie spirituelle. Une espèce de syncrétisme où on mélange tout et tout est dans tout et réciproquement et tout est égal. Mais il n'y a pas que ça. Ensuite, le diable. Alors le diable, comme le dit Jean de la Croix, on vient de le voir, pas toujours facile à discerner le diable. Et je crois qu'il y en a ici qui s'y connaissent là-dedans et qui pourraient en parler. Derrière chacune de nos maladies spirituelles, c'est ces maladies qui conduisent aux péchés capitaux. On connaît... Donc, ils sont à l'origine des sept péchés capitaux, le diable peut toujours se dissimuler. En tout cas, il sait très bien se servir tout spécialement de facultés que sont la mémoire, nous rappeler les choses, et puis notre imagination. Notre imagination pour nous incliner justement vers ces péchés. Se souvenir, ah, qu'est-ce que c'était bien quand j'ai, etc., etc. Ou bien, eh bien, qu'est-ce que ça serait bien si je, etc. Je ne veux pas dessiner les choses, pour faire de dessins. Donc, nous incliner vers eux, même s'ils passent aussi par des conditionnements extérieurs. Il peut y avoir des conditionnements extérieurs et pourtant, le diable peut être derrière. Il suffit de songer aux sollicitations incessantes des médias, de la publicité ou de certains milieux professionnels qui poussent à ça. Je prends un exemple qui est évident pour tout le monde, les révélations qui récemment ont fait suite en foule à l'affaire Weinstein, avec tous ces débordements. Voir ces crimes dans les milieux du cinéma et de la télévision sont probantes à cet égard. Pour résister aux manœuvres des diables, l'Écriture nous donne des moyens, des secours. Saint Paul, par exemple, dans la fin de la lettre aux Éphésiens, va nous décrire ce combat spirituel contre, j'en ai déjà parlé, je crois, ce matin, les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et il nous indique les armes. Qu'il faut utiliser. Les armes qu'il faut utiliser, c'est ce qu'il appelle l'armure de Dieu, dont il détaille les éléments. La citation 16. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut. Et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, si vous arrivez des fois de réciter le chapelet de Saint-Michel, ceci, c'est la demande par l'intercession de Saint-Michel-Archange et du cercle et du cœur céleste des puissances. Voilà. La difficulté vient de ce que le diable, comme on sait, est très rusé. Il repère les points faibles de ses adversaires que nous sommes. Thomas d'Aquin souligne à juste titre, c'est la citation 17, qu'il tente les hommes, vainqueurs de leur chair, donc ceux qui ont réussi à vaincre leur chair, il les tente du côté des vices auxquels ils sont les plus enclins, comme la colère, l'orgueil et les autres maladies de l'esprit. Quand il ne peut pas y arriver comme ça, alors il peut faire autre chose, pousser à l'excès de zèle. Par exemple, dans l'ascèse, les gens qui... Enfin, alors que la vertu, on le sait, c'est la mesure, toujours la mesure, le juste milieu. En revanche, il ne pousse jamais à l'excès, et ça c'est très important à souligner, jamais à l'excès dans la pratique des vertus théologales. Ça, il ne va jamais vous pousser à avoir plus de foi, plus d'espérance et plus de charité. Si ça vient, ça c'est pas le diable, c'est sûr. Ce que saint Pierre nous suggère, dans le célèbre passage de sa première lettre, que nous lisons au moins une fois par semaine à l'office des complis, c'est la citation 18. « Humiliez-vous donc. » Déjà, l'humilité, et pour faire partir les ténèbres, c'est bon. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment. Si vous êtes inquiet de toute votre inquiétude, déchargez-vous en lui, car il a soin de vous. » Si vous avez envie de boire trop de choses ou de manger trop bonnes choses, soyez sobre. Veillez. Votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. Bon, c'est l'une des premières encycliques, hein, c'est Saint-Pierre. Le démon a trois tactiques privilégiées. Premièrement, c'est un peu, je suggérais déjà, il déguise le mal en bien. Ce qu'il propose dans la tentation n'est pas forcément un mal évident, mais un bien manifeste. Thomas d'Aquin décrit ainsi le processus, citation 19. Ainsi, au début, il ne détourne que légèrement l'homme de son orientation générale, pas beaucoup, un peu, orientation générale antérieure, mais suffisamment pour ensuite l'amener plus facilement à pécher. À ce sujet, l'apôtre écrit aux Corinthiens, donc citation des Corinthiens, Satan, lui-même, se camoufle bien, lui, en ange de lumière. On trouve ça aussi chez d'autres auteurs, comme le père Jean Cassien, saint Jean Cassien, citation 20. L'enchaînement de nos pensées vient du diable lorsqu'il essaie de nous faire défaillir par la séduction des vices ou encore par des pièges cachés. Il déguise le mal en bien avec une adresse fausse et très subtile, en se présentant à nous sous l'aspect d'un ange de lumière. Deuxième tactique, citation 21, il nous trompe en relativisant ou en niant les conséquences des actes qu'il nous suggère. L'âme se laisse alors persuader que le bien est tout l'opposé du bien. C'est ce que dit saint Grégoire de Nice. Troisième tactique, après avoir amené l'homme à pécher, le diable l'enferme dans sa culpabilité en lui faisant croire que tout est perdu, que dorénavant, il ne peut plus être sauvé. Alors ça, c'était le diable. Maintenant, le vieil homme. Alors, c'est compliqué, cette histoire du vieil homme. Qu'elle vienne d'un conditionnement extérieur ou intérieur, la tentation, toute tentation nous atteint à travers ce qui est en nous le vieil homme, ce que Paul appelle l'homme de la chair. Mais pas à confondre avec simplement le corps, hein. c'est la chair, c'est le vieil homme qui n'est pas rené dans le Christ. Mais cette tentation peut venir directement par les inclinations de notre nature blessée, sans que le monde ou le démon y soit pour quelque chose. En premier lieu, la chair peut fixer notre attention, notre intérêt sur les délectations charnelles, tout simplement, en nous faisant oublier les délectations spirituelles, sans que pour autant le démon pousse trop. Il poussera peut-être après, mais pas forcément au début. Saint Jacques nous le dit. Donc, on l'a déjà lu. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. En second lieu, ça c'était la première chose, en second lieu, la chair nous tente en nous détournant du bien. On a déjà rencontré et cité aujourd'hui ce grand texte de l'Épître aux Romains, l'homme intérieur, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, l'homme intérieur se délecte dans la loi de Dieu, mais je vois en moi une autre loi, etc., etc. La grande difficulté vient de notre union intime avec cette chair. On est tellement unis. Et ce qui ne signifie... Ah oui, je dis ça même. Ça ne signifie pas, évidemment, seulement le frère Anne. Il y a plus que le frère Anne dans l'idée de la chair. Hein. Ce qui a fait dire au Seigneur Jésus lui-même, à destination des apôtres dans la nuit de Gethsémanie, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Saint Grégoire de Nyse présente ça à sa manière. Il dit « Notre puissance de désir n'est pas de nature telle qu'elle puisse en même temps servir... » On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas en même temps servir les voluptés corporelles et le mariage spirituel. On comprend. Si on cherche maintenant à déterminer ce sur quoi porte la tentation, sur quoi elle porte, on peut dire que pour tout homme ou toute femme, elle porte sur ce qui constitue sa personne humaine, une personne humaine. Mais il nous faut aussi considérer, évidemment, et c'est juste, que le milieu dans lequel la personne vit, quel qu'il soit, va jouer un grand rôle. En fonction de notre état de vie, de notre situation professionnelle, familiale, etc. On peut remarquer, en passant, que pour toute personne humaine, il y a dans le développement humain des périodes de croissance particulièrement délicates et pendant lesquelles la personne peut être spécialement fragilisée. C'est clair, l'adolescence, par exemple, est un moment, on le sait, parfois difficile, pas pour tout le monde, mais souvent c'est difficile. Les graves maladies, si on a une situation de maladie grave, on est très amoindri et donc beaucoup plus fragilisé, c'est évident. Les deuils, ou même à un certain degré, la vieillesse, quand elle s'aggrave, on peut dire, devient de plus en plus vieux et qu'on est très affaibli, etc. Est-ce qu'il est besoin de rappeler aussi à quel point, aujourd'hui, un grand nombre de couples et de familles ont du mal à subsister? Bon, on le sait. Parce qu'ils ou elles n'ont pas su franchir dans la paix et en reprenant courage, les épreuves que tous et toutes traversent. Alors, je n'ai pas de chiffres très récents, mais Poirier en donne quelques-uns que je répercute. Il y a déjà une dizaine d'années, en 2005, en France, il y avait par an 2 millions de femmes battues, dont la majorité par leur propre mari. Un mariage sur deux aboutissait au divorce, je crois qu'aujourd'hui c'est pire. Il y avait également... intéressant à voir, et je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup plus. Il y avait 50 000 voyants et devins en France, et 10 millions de personnes qui les consultaient plus ou moins régulièrement. Voilà. Et ça explique un certain nombre de choses. Tiens.
Combien de...
C'était en 2005. Hein.
50 000
donc,
et 10 millions de clients.
50 000 voyants et 10 millions de clients. Oui.
Ça fait une sacrée clientèle par voyant.
Et ça, oui, mais...
Et là, il n'y avait pas de décision avant.
Oui.
On avait ça, quand on a travaillé à Lourdes, on avait une personne, elle ne prenait aucune décision sans aller voir...
Oui,
il suffit
de voir autour de nous. Hein. Oui. C'est voilà.
Mais on nous a même cité parfois des présidents de la République.
Hein. Oui. Et bien sûr.
Mitterrand, entre autres.
À la même période, il y avait dans le monde, par an, entre 30 et 70 millions d'avortements par an, soit un ou deux par seconde. Autre chiffre alarmant et tout aussi significatif, on dépensait en 2005, et je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, entre 1 et 2 millions de dollars par minute pour l'armement, pour les armes. Voilà. Alors en outre, la tentation va éprouver de manière très particulière et insistante les personnes qui, comme nous, veulent se mettre à la suite du Christ. Il est clair pour chacun de nous, j'imagine, que le démon veut nous détourner de notre attitude d'enfant, d'enfant bien-aimé du Père, cherchant en tout à mettre en pratique les enseignements du Seigneur Jésus et à nous laisser unir à lui par l'Esprit Saint qui a répandu son amour dans nos cœurs. Et donc, les tentations vont concerner tous les aspects fondamentaux de notre vie chrétienne. Les trois vertus théologales fondamentales, la foi, l'espérance et la charité, mais aussi, bien sûr, donc les vertus théologales en premier, parce que, comme je dis, s'il y a un accroissement de vertus théologales, là, c'est pas le démon, c'est bien l'inverse. Donc la foi, l'espérance et la charité, mais aussi, bien sûr, notre vie de prière. Et au premier chef, la vie sacramentelle. Tous les moyens que, par son Église, le Seigneur met au service de notre croissance spirituelle. Un verset du psaume 85, que personnellement j'aime beaucoup, c'est le verset 11. On l'a une fois, au moins une fois par semaine accompli, si on veut. Montre-moi ton chemin, Seigneur, puisqu'on parlait du chemin, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Comme le démon est champion du désordre, il tente par tous les moyens de casser cette unité que nous désirons. Il met par exemple une contradiction entre le désir profond qu'on a dans le cœur et puis notre conduite de chaque jour qui ne correspond pas à ce désir. Quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? On fait le contraire de ce qu'on devrait faire en tant que chrétien, on donne un contre-témoignage. Et c'est ce que saint Paul souligne en toutes ses exhortations ou ses parenthèses, spécialement dans sa lettre, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17 jusqu'à chapitre 5, verset 20. Mais on pourra le relire si on veut, plus tard, je lis pas maintenant. Qu'on pourra donc relire aussi si on veut dans un temps de silence. L'un des pièges favoris tendus aux chrétiens fidèles, alors ça c'est, je pense que vous allez très bien voir de quoi il s'agit, c'est l'orgueil spirituel qui se profile parfois plus ou moins subtilement derrière nos efforts spirituels. Je ne pense pas que ça concerne beaucoup d'entre nous l'excès d'ascèse, mais après tout, peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui font des excès d'ascèse. Ça peut devenir dangereux. Et l'un des remèdes principaux, il a déjà été donné hier, je dirais même essentiel contre ça, c'est l'accompagnement spirituel. Ça nous arrive, et même ça nous arrivait souvent, de croiser des personnes très pieuses, très dévotes, qui vont partout dans les églises, qui prient beaucoup, etc., qui font la leçon aux autres d'ailleurs, et qui sont prêtes à donner des conseils à qui veut les entendre, et auxquels, si on leur demande « Ah, au fait, vous en avez, vous, un accompagnateur ou une accompagnatrice ?» Et ces personnes vont vous répondre « Oh ben non, c'est le Seigneur qui m'enseigne direct. » Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça. Moi, j'en ai rencontré. Enfin, nous, on en a rencontré. Dans le même ordre d'idée, il peut y avoir une tentation d'accommoder la doctrine de l'Église à notre propre sauce. Assez courant. Aujourd'hui, on peut voir des tendances dangereuses se développer à propos de l'exhortation apostolique à Maurice et Titia. Avec deux choses, aux deux extrêmes. Certains, qui veulent préserver la tradition de l'Église et qui revendiquent parfois même l'appellation de traditionnaliste, soupçonnent le pape de vouloir brader les sacrements. Voilà. Le pape François veut brader les sacrements. À l'inverse, vous en avez d'autres qui, sans nécessairement le dire, c'est plus subtil, se considèrent comme des progressistes et ils estiment qu'il serait grand temps de ne pas compliquer les choses pour les divorcés remariés et qu'il conviendrait donc de ne plus refuser du tout les sacrements. On a les deux extrêmes à l'heure actuelle dans l'Église. Et il m'a paru judicieux dans ce contexte de vous signaler la parution prochaine, je disais, d'un livre aux éditions du Cerf qui s'intitule « Une morale souple ». Mais non, alors, il faut enlever main, c'est pas main, c'est mais. Mais non sans boussole, répondre aux doutes des quatre cardinaux sur Amoris Laetitia. Il comporte donc d'abord une préface du cardinal Schönborn, qui est un grand défenseur des idées du pape, et puis une première partie écrite par un jésuite, le père Thomassé, qui est doyen et professeur à la faculté de théologie jésuite à Sèvres, Et puis l'autre seconde partie de Jean-Miguel dont je parlais ce matin. Alors je vous ai reproduit, pour que vous le voyez, sur la feuille jointe aux citations, celle qui est agrafée, donc vous avez l'introduction du livre. Bon. Il est clair pour chacun de nous, j'imagine, que quasiment soupçonner le pape ou l'Église d'hérésie est plutôt mauvais signe. Mais qu'inversement, leur faire dire ce qu'ils ne disent pas en introduisant des pratiques très différentes du contenu du fameux chapitre 8 de l'exhortation et de sombrer plus généralement dans ce qu'on appelle le relativisme, oh ben vous savez, n'est pas bon non plus. Donc, c'est pas si facile que ça de rester fidèle à l'enseignement de l'Église. Voilà. Comme le dit un père du désert, et ça je trouve que c'est très bien, donc il n'a pas dit qui c'était Poirier, il a juste reproduit un extrait des sentences des pères du désert, c'est la citation 25. C'est par des chuchotements malveillants que le serpent a expulsé Ève du paradis. Celui qui parle contre son prochain, fortiori quand il s'agit du pape ou du magistère en général, lui est donc, enfin c'est pas ça le père du désert qui le dit, c'est moi qui le dis, lui est donc semblable, car il perd l'âme de celui qui écoute et aussi il ne sauve pas la sienne. Des dangers particuliers vont guetter ceux qui sont ministres de l'Église, ministres ordonnés, du fait des responsabilités et charges qui leur ont été conférées par l'ordination. Le but de tout ministre, serviteur du serviteur suprême qu'est le Seigneur Jésus-Christ, est d'annoncer la bonne nouvelle. On est tenu d'annoncer la bonne nouvelle du salut, et à l'instar de Jean-Baptiste, de toujours s'effacer pour laisser les autres grandir en lui. Voilà, s'effacer, c'est pas moi qui compte, c'est que le Seigneur soit annoncé, que c'est celui qui passe. Alors, de ce point de vue-là, et là, c'est facile de battre sa coulpe, la prédication peut être une tâche très risquée si on oublie que celui qu'elle doit, si on oublie celui qu'elle doit annoncer. Et à ce moment-là, on peut devenir un séducteur brillant et faire des sermons magnifiques, mais qui ont peut-être pour but de faire dire le père machin, ou plus rarement le diacre chose, c'est vraiment, alors ça c'est le nec plus ultra, c'est le mieux du mieux. Bon. De la même façon, et c'est plus grave encore de mon point de vue, un prêtre qui n'oserait plus donner le sacrement de réconciliation, ça peut arriver hélas. Et pourquoi ? Parce que lui-même n'en vit plus. C'est un cas extrême, bien sûr. Mais un prêtre ne veut plus tellement confesser les gens parce que lui, il ne se confesse jamais. Eh bien, serait gravement en tort. Parce que c'est un des ministères fondamentaux de la grâce du sacerdoce que de répondre à cette demande qui, malheureusement, est insuffisante, souvent beaucoup trop insuffisante, de demander le sacrement de réconciliation. Sacrement de réconciliation est une source de grâce considérable, puisque, comme vous savez, quand on ressort du sacrement de réconciliation, que ça a été fait de manière sincère, on est comme au baptême, comme si on sortait de l'eau du baptême. On retrouve notre virginité baptismale, en quelque sorte, et ça permet de repartir. Voilà. Alors, dernier point aussi, qui là est aussi assez fréquent, confondre la grâce du sacerdoce avec l'autorisation d'exercer sur les fidèles un pouvoir sans partage, ce qu'on pourrait appeler un curé jupitérien. Voilà. Bon, j'ai déjà fait allusion aussi au danger que font courir à certains le nouvel âge. Plus généralement, une autre tentation qui est liée à l'orgueil spirituel peut menacer, c'est peut-être un peu plus subtil que le nouvel âge, mais ça existe, les membres de certaines communautés ou mouvements à l'intérieur de l'Église qui se replient sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. La communauté se replie sur elle-même, au point de dire qu'en dehors de nous, point de salut. On est vraiment l'Église, nous on est les vrais chrétiens. Et le pape François, justement, dans la joie de l'Évangile, une autre exhortation, souligne ce risque que court l'Église quand elle oublie, dit-il, la nécessité de la mission vers l'extérieur, la mission ad extra. En principe, la mission, c'est vers l'extérieur. Hein? C'est pour que l'Église deviennent de plus en plus riches de membres. Ce n'est pas uniquement pour perfectionner ceux qui sont déjà soi-disant purs ou déjà très bien, quoi. Voilà. Et c'est ça un peu l'idée d'aller vers les périphéries aussi, ce que dit le pape, les endroits où le Christ n'est pas annoncé. Voilà. Dans la vie fraternelle, autre cas, dans la vie fraternelle, on sait par expérience combien les faiblesses des uns et des autres, on est tous faibles, il y en a tous des défauts et des qualités, mais souvent les autres, ils voient d'abord les défauts. Donc, combien les faiblesses, si elles ne sont pas assumées avec bienveillance, ou même les tout petits malentendus qui ne sont pas résolus, qu'on laisse traîner, ça peut engendrer discorde et division, ça fiche la panique. Si une communauté est malade, dit Poirier, et je crois qu'il a tout à fait raison, il conviendra de discerner la cause de ses déviations et les tentations qui la sous-tendent. C'est à la fois pour les personnes et pour les communautés. Christian Poirier distingue au moins trois pathologies majeures qui peuvent affecter les communautés. Alors on peut discuter de ça, hein. Bon, communautés de vie, et spécialement les communautés de vie ou les groupes de chrétiens qui se réunissent de façon très intense, etc. Premièrement, l'amnésie. L'amnésie, on oublie qu'on a eu des attitudes déviantes et qu'on a causé des torts à telle et telle personne. Bon, on est passé dessus, c'est passé, c'est fini, voilà. Mais le tort, s'il n'est pas réparé, il n'est pas réparé. C'est comme ça. Comment ? Le tort tue, oui, c'est ça. Deuxièmement, la nostalgie, qui dit « Ah, qu'est-ce que c'était bien avant ? Comme c'était bien du temps du Père Chose. Comme c'était bien du temps de... » Bon, c'est toujours mieux avant, quoi. Comme dit notre voisin, c'était mieux dans l'époque. Troisièmement, et donc ça a fait se replier à ce moment-là sur des comportements sectaires. Troisièmement, l'immobilisme. C'est aussi une grosse pathologie. C'est la peur de tout changement. Ah ben oui, mais on a toujours fait comme ça. Pourquoi qu'on ferait différemment aujourd'hui s'il n'y a pas de raison? Pourquoi ils veulent tout nous changer, etc. Bon. Voilà, chez nous, ça ne se fait pas, etc., etc. Enfin, on connaît les arguments. Alors, les solutions qu'on peut apporter à tout ça, dit Poirier, je crois qu'il n'a pas tort, c'est une, j'aime pas trop le terme, mais il a dû être un peu influencé des fois par les jésuites, c'est une relecture des pratiques actuelles à partir d'une réflexion pour une communauté sur le charisme du fondateur, des fondateurs, sur le charisme initial. Pourquoi cette communauté a été fondée, quelle grâce elle a reçu particulièrement, c'est cette grâce qu'elle doit développer sans pourtant se bloquer, se fixer sur la grâce, sur des pratiques, pas sur la grâce, sur des pratiques. Et puis, ben, aussi, comme pour les personnes, il y a des communautés qui ont besoin fortement d'un accompagnateur extérieur. C'est comme ça que certaines communautés nouvelles qui ont eu des gros problèmes, l'Église les a aidés à les résoudre, le pape lui-même, des fois, ou les évêques, en nommant quelqu'un qui va les suivre pour essayer de voir ce qui se passe. Dans certaines circonstances dramatiques, enfin, là on revient à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, circonstances dramatiques dont on peut espérer qu'on ne la connaisse pas, c'est-à-dire la peur des persécutions éventuelles que les chrétiens pourraient subir, eh bien cette peur, elle peut conduire, comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre la lampe de la foi sous le boisseau. C'est ce que a l'air de dire saint Jean dans la lettre à l'église de Smyrne au sein du chapitre 2 de l'Apocalypse. Voilà ce qu'il dit, verset 10. « Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. » On peut dire qu'ils ont eu de la chance, c'était court. Ces fois, c'est beaucoup plus long que ça, c'est des années. Pensez à tous ces gens qui ont été dans des prisons, dans des camps, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou des fois qu'ils sont morts. Donc, reste fidèle jusqu'à la mort, dit l'Apocalypse, et je te donnerai la couronne de vie. Enfin, dit le Seigneur l'Apocalypse. Alors, sans aller jusque-là pour l'instant, j'espère, il est possible de vivre des formes de persécution aujourd'hui, dans notre France d'aujourd'hui, dans la vie quotidienne. Persécution dans le cadre d'une institution, une école, collège, lycée, dans la vie professionnelle, dans une entreprise, ou même parfois dans la vie familiale. C'est ce que disait le Seigneur jeudi soir, n'est-ce pas, dans l'Évangile. La mère contre la fille, ça, belle-mère, voilà. Voilà, donc ça, c'est pour le mécanisme de la tentation. Oui, 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 je vais passer vite. Quand vous en avez marre, on arrête. Hein. Maintenant, je voulais parler de la nécessité du discernement, mais peut-être qu'on en a suffisamment parlé hier. Juste quelques points. peut s'arrêter, si vous voulez, dans un quart d'heure, ça ferait trop après. Comment ? Bon, si ça permet aux uns et aux autres de récupérer par une petite sieste discrète, c'est très bien. Dans tout ce qu'on vient de dire... Comment ?
On n'en a pas besoin pour
l'instant. Ah ben alors, rendons gloire à Dieu. Dans tout ce qu'on vient de dire, la nécessité du discernement est évidemment clairement apparue, comme déjà on a beaucoup parlé hier avec frère Jean-Claude. Plusieurs passages de l'Écriture nous y invitent avec force à ce discernement. Et vous pourrez être étonné dans les épîtres de Paul en particulier. Par exemple, citation 27 dans les Romains, Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, compréhension, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. » Autre exemple, dans 1 aux Thessaloniciens, chapitre 5, citation 28, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez tout, retenez ce qui est bon, gardez-vous de toute espèce de mal. » Vous savez qu'à l'heure actuelle, à travers notamment le renouveau charismatique, la prophétie est revenue un peu à la mode. Elle avait continué, mais... Donc il y a des personnes, par exemple, qui dans une assemblée de prière ou d'autres occasions ont une parole qui semble venir du Seigneur, ils donnent cette parole, etc. Alors, si la parole édifie, si elle fait du bien, si elle apporte la paix, si elle apporte l'unité, si elle rend les gens plus aimants de leur prochain et du Seigneur, il y a des chances que cette parole soit bonne. Si elle dit « attention, il y a un tel qui a fait ça, on va lui taper dessus, etc. », déjà, là, ça commence déjà à être moins bon. C'est bon. Du point de vue étymologique, discerner, ça veut dire passer au crible. C'est avec comme les maçons, là, avec le sable. Voilà, passer au crible. Par le discernement, dit Poirier, nous séparons pour pouvoir poser un jugement. Mettre de l'ordre, garder ou rejeter. Et ce tri, donc, grâce à cette espèce de tamis, là, va permettre à l'homme de s'orienter de plus en plus vers ce qui est sage. À la fin des temps, citation 29, le Seigneur nous prévient lui-même, il y aura un discernement. Il a la pelle à vanner dans sa main, dit le Seigneur, et il nettoiera son air, et il ramassera son blé dans le grenier. Quant aux balles, donc il aura fait le tri entre la balle et le grain, il les consumera dans un feu qui ne s'éteint pas. J'ai parlé ce matin des regards de Jésus dans l'Évangile. Le discernement pour nous chrétiens, c'est peut-être d'entrer dans le regard de Jésus, aidé par le Saint-Esprit, sur nous-mêmes et sur les autres. Avoir ce regard de bienveillance, de compassion, de tendresse, qui repère ce qu'il y a à repérer, mais qui dit jamais « un tel est un menteur, un ceci, un cela », mais qui dit « tel acte n'est pas bon ». Oui, tel acte n'est pas bon. Mais dire qu'à partir de là, la personne qui a commis cet acte est cataloguée comme à jamais menteur, etc., c'est évidemment très, très dangereux. Le discernement des esprits permet d'opérer nos choix avec la liberté que Dieu a voulu pour nous. Et au début du mystère de Jésus, on dit dans le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean, citation 30, comme il était à Jérusalem, durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. En reprenant ce qu'on a dit précédemment à propos des tentations, on peut se demander, lorsqu'on passe au crible des idées, ou des inspirations qui nous viennent pour faire telle ou telle chose, cette inspiration vient-elle de l'homme nouveau que je suis devenu par la grâce, ou est-ce qu'elle ne vient pas plutôt du vieil homme, de la chair? Pas toujours facile à voir. Hein. Vient-elle du monde? Vient-elle du diable? Ou de ses sbires? Ou plutôt de mon ange gardien? Il ne faut pas se laisser duper... par telle ou telle inspiration. Les apôtres nous mettent en garde dans leurs lettres là-dessus. Par exemple, saint Jean, dans sa première épître, citation 31, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Donc on est bien mis en garde, et surtout en mise en garde de devenir nous-mêmes des faux prophètes. Dans la vie de beaucoup de saints, on peut voir, on l'a déjà dit hier, mais il y en a qui avaient ce charisme de manière très puissante, ce charisme de discernement des esprits, soit pour eux-mêmes, soit pour quelqu'un d'autre. Alors évidemment, on cite beaucoup saint Ignace de Loyola, puisqu'il a écrit ce traité-là, du discernement des esprits, n'est-ce pas, qui a permis de créer les exercices spirituels qui permettent, suivant un certain chemin, de reconnaître peut-être ce que le Seigneur veut pour soi. Mais il n'y a pas que lui, il y a des tas d'autres saints. Et, bon, par exemple, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, Jean de la Croix. Il y a un épisode intéressant dans la vie de Jean de la Croix. Il y a beaucoup d'épisodes intéressants, mais il y en a un qui est intéressant. On l'avait appelé à visiter un Carmel. C'est Sainte Thérèse qui avait demandé, ou une supérieure avait demandé, parce que dans le Carmel, il y avait une religieuse qui faisait l'admiration de tout le monde. Elle avait des prophéties, mais alors, je ne vous dis pas. C'était super. Alors, tous les gens se pressaient au parloir du Carmel. Elle expliquait la Bible. Oui, c'est ça. Elle expliquait la Bible d'une manière parfaite, lumineuse, très claire, tout ça.
La télévision s'est déplacée.
Voilà. Non, c'est pas ça. D'abord, les... Oui. Alors, les sœurs avaient invité des théologiens à venir. Donc, des théologiens sont venus. Des gens du diocèse très haut placés, etc. Et tous étaient dans l'admiration, etc. Et puis les supérieurs, quand même, elles avaient quand même un petit doute. Elles ont appelé Jean de la Croix, qui arrivait tout petit. Il a parlé une heure avec la sœur. Et après, la prieure lui a dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il a dit, c'est le démon. Poum. Pardon?
Il lui avait demandé quelque chose.
Oui, il avait posé des questions. Je ne sais plus ce qu'il lui avait demandé.
Oui, mais elle avait refusé.
Oui, c'est ça, quelque chose comme ça, oui, c'est ça, oui. Enfin, il avait remarqué à quelques...
Je ne sais plus questionner.
Oui, j'aurais dû reprendre le texte, mais c'est...
Et alors, ouais. Elle a refusé, alors c'est là qu'il a compris.
Oui, cherchez pas, c'est le démon. Voilà. Inversement, dans d'autres cas, on peut prendre l'exemple, justement, de Teresa Avila elle-même, qui a été très, très éprouvée par lorsqu'elle a eu ses intuitions, etc., par les autorités religieuses, par les carmes qui n'étaient pas déchaussés, qui étaient restés chaussés, etc. Et elle a été très, très... Elle était elle-même inquiète sur ce qu'elle vivait. Elle se dit, est-ce que je ne suis pas trompée par le démon, etc., etc. Et celui qui l'a apaisée, en premier, c'est Saint-Pierre d'Alcantara, donc un franciscain qui est venu, qui menait une vie très austère, etc., etc., et qui lui a dit, ma sœur, c'est le Seigneur. Ça aide, hein, c'est génial.
Et alors, la sœur qui subjuguait tout le monde, elle a mal tourné. Qu'est-ce qu'elle a fait
dans Elle est partie.
Jean de la Croix, elle lui a fait des exorcismes.
Oui.
Il l'a exorcisé.
En fait, pour elle, ça a dû être quand même très difficile.
Certainement. Mais ça, alors là, il faudrait rentrer dans les détails. On va arrêter là-dessus parce que c'est... Voilà.
Elle a été libérée après.
En tout cas...
C'était plus la même personne.
Non, c'est ça. En tout cas, Jean de la Croix, pour continuer une seconde sur lui, il dit quelque chose, citation 32, qui montre bien comment opérer les choix dans la vie. Voilà ce qu'il dit. « Qu'est-ce que ça vous sert de donner à Dieu une chose si lui vous en demande une autre ?» Allez, bon. « Considérez ce que Dieu veut et faites-le. Par ce moyen, vous satisferez plus pleinement votre cœur que par les choses auxquelles vous vous portez de vous-même. » Alors ça, c'est dur à avaler. Et pourtant... Ça peut être vrai. Voilà. Tout chrétien éclairé par l'Esprit Saint peut par lui-même discerner la route qu'il doit suivre avec le Seigneur, mais il le fera d'autant mieux s'il recherche, comme on en a dit, une personne douée du charisme d'accompagnement et qui sera capable de discerner quand il ou elle lui demandera quelle est la décision à prendre, ou du moins de l'amener, comme disait Jean-Claude hier, à prendre la décision, voire dans certains cas particuliers, de l'orienter vers un thérapeute, s'il est nécessaire. Bon, aujourd'hui, la tentation, malheureusement aussi, des accompagnateurs, c'est d'abord d'envoyer au thérapeute. Il faudrait d'abord discerner que la personne a besoin d'un thérapeute et de quel thérapeute. Voilà. Par exemple, il donne un exemple qui est assez bien, là, parmi d'autres. quelqu'un qui a une tristesse permanente. Et on ne peut pas l'arracher à sa tristesse. Alors, l'accompagnateur spirituel, c'est dans le temps qu'il peut faire ça, c'est pas d'un coup, hein, c'est au fil du temps. Il peut arriver à discerner avec la personne si ça vient d'une cause psychologique, d'une cause organique, d'une permission de Dieu, des choses qui peuvent arriver, ou de l'influence du démon. Et Poirier, il semble avoir une expérience d'accompagnateur spirituel et il souligne les difficultés qui est souvent pas aisé de résoudre. On peut prendre un exemple. Donc, c'est est-ce que je l'ai mis, les fragilités et tout ça ? Oui, 33, oui, ah ben voilà. Alors, les fragilités, les pathologies psychologiques peuvent s'apparenter, se confondre avec les péchés capitaux. Pas facile, ça, hein ? Rendant parfois difficile le discernement. Dans le discernement, on devra être vigilant à ne pas prendre une pathologie psychologique pour un péché capital et lycée de Versailles. À cause de ces similitudes, souvent la personne blessée se juge et elle est jugée pécheresse dans un cadre religieux, alors que la difficulté est d'un ordre différent, tout autre. Dans certains cas, le comportement de la personne est conditionné par des schémas psychologiques dont l'origine peut être une blessure. Cette blessure peut provoquer différentes attitudes qui consistent à fuir, à reproduire sur les autres ou à maintenir dans sa vie ce que l'on a subi. Alors on le voit avec certaines choses terribles qui surviennent, notamment en ce qui concerne l'inceste, des choses comme ça. Des choses... Donc d'où on peut ajouter le poids de l'éducation et de l'ascendance, de ce qu'on a reçu de la famille. Si on prend l'exemple de la tristesse, dont on vient de parler, on pourrait dire la chose suivante, c'est la citation suivante. La tristesse peut être liée à des blessures de la vie, comme le manque de reconnaissance, le rejet, la culpabilité, plutôt qu'au contre-coup d'un mouvement de colère que nous avons eu, un désir trompé, un profit perdu, ou le regret de ne pas avoir obtenu ce que nous avions espéré. Donc, les blessures, évidemment, les blessures demandent une guérison intérieure, un processus de guérison intérieure. Alors, pour les confesseurs, spécialement, jusqu'à dire Dieu merci, je ne suis pas confesseur, il convient de ne pas faire l'erreur de considérer comme un péché ce qui est essentiellement le fruit de blessures. Ça ne doit pas être facile, donc je veux dire ce qu'il en pense. L'ennui, c'est que la conduite due à une blessure s'apparente beaucoup à la conduite pécheresse due à la permanence de l'un des vices qu'on appelle péché capitaux. Ouais, ça ressemble assez, et c'est difficile. Alors, il ne faut pas non plus négliger les causes organiques ou somatiques. Vous avez des problèmes comme la thyroïde. C'est bête comme chou, mais insuffisance thyroïdienne ou bien une maladie qui n'est pas encore repérée peut considérablement affecter la vie de la personne. Saint Jérôme lui-même le fait observer. Pourtant, Saint Jérôme n'était pas psychologue, il vivait à une époque ancienne. Citation de Saint Jérôme. Il en est parmi les moines que l'humidité de leurs cellules, leurs jeûnes immodérés, le dégoût de la solitude, une lecture trop prolongée aussi, font tomber dans la mélancolie et ils ont besoin des remèdes d'Hippocrate plutôt que de notre avis. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les accompagnateurs savent ça. On peut remarquer aussi que dans la vie spirituelle d'un chrétien, il y a, on l'a déjà dit, des étapes différentes. Alors, il y en a au moins trois grandes qui sont repérées un peu par tout le monde. Les commençants, les progressants et les parfaits. À chacune correspond un cheminement, une croissance, une fécondité particulière. Donc, il faut, je suppose, quand on est accompagnateur, il faut faire attention de voir où en est la personne dans son chemin. Alors là, est-ce que j'ai encore trop de choses ? Ça fait encore fou. Non, ça va, j'arrive à la fin. L'étape des commençants, citation, vous l'avez sur la feuille, je ne sais plus si c'est 36, c'est ça. Donc, l'étape des commençants est caractérisée par la voie purgative, celle des progressants par la voie illuminative et celle des parfaits par la voie unitive. La première étape est souvent marquée par des consolations qui sont parfois très fortes. Mais ensuite, presque inévitablement, ben on le sait, on en a parlé hier déjà, on connaîtra des périodes d'aridité et alors on se demandera si l'on a péché. Il faudra faire le point avec l'accompagnateur ou l'accompagnatrice, car souvent, le Seigneur émonde ceux qu'il veut attirer à lui, purifier l'amour qu'ils ont pour lui. Cette alternance de consolation et de désolation est bien connue de tous les grands spirituels. Il suffit de penser à Saint François, à Sainte Thérèse d'Avila, à Saint Jean de la Croix, à Ignace de Loyola, dans les exercices. C'est ce qu'on peut déjà constater, d'ailleurs, en lisant simplement le Cantique des Cantiques. Ce qui permet de vérifier l'authenticité de notre relation au Christ, à la Sainte Trinité et notre croissance spirituelle en général, ce sont, ben, on les a déjà évalués, le fruit de l'esprit, ce qu'on appelle, ce que saint Paul appelle le fruit de l'esprit dans les Galates 22-26, chapitre 5. 37. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, entendu ça ce matin, je crois, hein, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises, puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Alors, comme il trouve que la liste n'est pas assez complète, Poirier rajoute, à ces fruits dont nous parle saint Paul, nous pouvons ajouter ces autres fruits qui mettent en lumière que nous sommes en Dieu, la justice et la vérité, c'est aussi dans Galates d'ailleurs, l'humilité, le pardon, la discrétion, la confiance en Dieu, l'intention droite, le désintéressement, la simplicité, la mortification intérieure, la liberté spirituelle et bien entendu l'amour et l'imitation du Christ, Fils de Dieu, fait homme. Les moments de désolation peuvent être vécus soit dans une sorte de révolte contre une situation ressentie comme douloureuse ou injuste, soit comme une purification permettant notre croissance spirituelle. Encore une fois, Dieu ne veut pas notre épreuve, mais il la permet pour nous faire grandir dans l'amour et dans l'offrande de nous-mêmes, ainsi que nous le disons à la fin de la prière de la famille de la Trinité. L'archimandrite Sophronie décrit cela très bien, il est cité par Poirier. C'est au travers d'une expérience prolongée au cours de laquelle on apprend à se vider de soi-même, ce qu'on a dit ce matin à la kénose, que l'on acquiert l'amour de Dieu. Cet amour se révèle à nous dans les minutes fugitives où nous sommes visités d'en haut, puis suivent immanquablement les jours, les années où nous sommes abandonnés de Dieu. La crainte envahit l'âme désertée par Dieu. Nous pouvons ne pas savoir pourquoi cela nous arrive. Nous nous sentons en danger. L'amour qui s'était manifesté à nous dans la lumière se retire, se cache comme le soleil qui disparaît à l'horizon. La nuit obscure envahit tout. C'est ainsi que nous apprenons à suivre le Christ dans sa descente en enfer, à le suivre partout où il va. Naturellement, on ne peut pas, pour finir, ignorer l'action démoniaque. La grosse difficulté, comme on l'a déjà vu, vient de ce que le démon sait exploiter toutes les failles de notre nature humaine, entachées par le péché. Les maladies psychologiques organiques ne sont pas, bien sûr, nécessairement son œuvre, mais d'autres fois, c'est le cas. Ce qu'il importe de vérifier, là plus encore hein, qu'avec l'aide d'un conseiller spirituel, c'est si nous n'avons pas, consciemment ou non, ouvert des portes. Pour l'histoire de l'action démoniaque, c'est la question d'avoir ouvert des portes en recourant notamment à des pratiques bizarres, souvent des pratiques occultes, les gens qui vont voir les voyants, etc., magie, divination, spiritisme, tirer les cartes et tout. Et tout ça est interdit par la parole de Dieu. Il suffit de relire à chaque fois le Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12. Néanmoins, beaucoup de personnes, même chrétiennes, ils ont volontiers recours et après, ils ne savent pas pourquoi ils sont comme ils sont. Et comme on reconnaît l'Esprit Saint à son fruit, de même, on peut reconnaître l'action du démon à ses fruits de destruction. L'arrêt donné à toute fécondité de l'œuvre du diable découle des fruits de mort. Une chose sur laquelle on peut mettre en garde, c'est, par exemple, des gens qui vont... J'espère que je vais heurter personne en disant ça, mais certains radiesthésistes, ils disent « Ah, il m'a guéri de mon mal d'eux. » Alors, le mal d'eux, effectivement, ils ne le sentent plus, ils sont apparemment guéris de ce mal. Mais ils ne dorment plus, ils n'ont plus envie de prier, ils n'aiment plus trop leur mari ou leur femme, etc. Et ça, vous voyez ? Eh bien oui, mais c'est des choses. Et c'est quand quelqu'un vous dit « Ah ben ça m'a fait du bien d'aller voir tel anesthésiste », par exemple, un exemple, ou tel guérisseur. Bon, et vous dormez bien la nuit ? « Ah ben, je fais souvent des cauchemars et ça. » Et ça va autrement avec les gens, la relation, tout ça. « Bah, je suis un tel, il m'emmerde. Ah, » excusez-moi, je suis vulgaire, mais... etc., etc. Bon, ben, vous voyez, c'est des affaires de fruits. Hein. C'est pas les fruits du Seigneur, en tout cas. Alors, rapidement, parce que ça, c'est juste pour le repérer et le savoir, mais peut-être vous savez déjà ça, les degrés d'emprise du diable vont du moins grave à l'excessivement grave. On distingue habituellement la tentation. Bon, ça, c'est quand le diable cherche à semer le trouble en nous. Ça, c'est devant hein, tout le monde, il est un peu soumis. L'obsession, par laquelle il peut tourmenter l'imagination en la fixant dans des vices, des pratiques pécamineuses de manière terriblement répétitive. Ça, c'est déjà embêtant, l'obsession. Plus grave, enfin, ou oui, grave, très grave, en tout cas, la vexation. Ça affecte la personne corporellement, ou bien son environnement, et des choses qui commencent à bouger dans la maison, des bruits, etc., etc., qui contribuent à déstabiliser. Hein. Mais, alors, évidemment, on sait très bien les vexations que les grands saints ont subies. Notamment curé d'Ars, Padre Pio, ou encore la voyante de Notre-Dame du Lot, la Benoît Trancurel, qui était transportée à 2 kilomètres dans la neige depuis sa chambre et priait dans la nuit. Bon. Comment ?
Marthe Robin,
etc. Bon, tous les grands spirituels, mystiques, etc., ils ont connu ça. Et puis, l'infestation. L'infestation qui est proche de la vexation, qui peut toucher toutes sortes de personnes et même les animaux. Il suffit de penser aux cochons dans lesquels les démons se précipitent lorsque Jésus les chasse de la vie et de la personne du Gérasénien. Alors il y a aussi les bruits dans les maisons, les objets qui se déplacent, causes qui peuvent souvent être liées à des liens occultes. Et enfin, le pire du pire, bon, c'est la possession, emprise du démon sur la volonté, du jugement de la personne se sont aliénées, elle peut être la conséquence d'une vie dissolue, d'une adhésion à des pratiques occultes, plus gravement encore, et là c'est vraiment grave, et c'est difficile à chasser pour celui qui a à le faire, c'est un pacte, quand quelqu'un a signé un pacte avec le diable. Je vais vous donner un exemple, mais sans rentrer dans les détails, notre fille Claire s'est trouvée un soir à un dîner, je crois qu'on peut le dire, c'est pareil, on désigne personne, hein. Elle va, une amie qui voulait absolument la voir avant qu'elle aille au Carmel, etc. Et cette amie était en couple avec un gars, qui avait l'air très gentil, très intelligent, hein, très intelligent. Et tout d'un coup, au détour de la conversation, il dit à Claire, « Bon, qu'est-ce qu'on fait si on a signé un pacte avec le diable ?» Claire était un peu surprise par la question. Les copains ne posent pas toujours ce genre de questions. Donc elle a essayé de répondre comme elle savait, etc., etc. Et alors le gars, il a expliqué comment il vivait, tout ça. C'était un truc ahurissant, Ahurissant, parce qu'il avait signé un pacte. Alors, évidemment, l'important, c'est la conversion. Donc une conversion réelle, assortie d'une vie de prière fidèle et la plus intense possible, ainsi que les sacrements de l'Église, au premier rang desquels, je l'ai déjà dit, la confession, puis naturellement la communion eucharistique, vont aider à se libérer de l'emprise démoniaque. Mais vous savez bien que, des fois, il faut en plus une prière de guérison intérieure. Parfois, Dieu guérit directement. Parfois, il faut recourir à la prière de frères ou de personnes qui ont un peu l'expérience de ça. Parfois, des prières réitérées dans le temps. Et puis, dans certains cas, alors très lourds de possession d'infestation, il ne faut surtout pas se risquer à... Voilà, il y a la possibilité du ministère de délivrance que tout prêtre peut exercer, à condition de ne pas s'adresser aux démons directement. Et puis il y a l'exorciste diocésain qui est délégué par l'évêque, lui, pour chasser le démon en l'interpellant comme le Seigneur Jésus le faisait. Voilà. En conclusion, peut-être je peux le laisser à votre discrétion de lire par vous-même, hein. C'est les secours et les armes dans le combat spirituel. Alors, on en a déjà suggéré. Si on veut synthétiser un peu, le premier secours, c'est tout simplement, globalement, l'œuvre de la grâce. Et là, on a le célèbre occasion où saint Paul demande d'être délivré son écharde, la fameuse écharde. Et la réponse du Seigneur paraît un peu déroutante, et pourtant c'est une réponse très importante et qui peut nous concerner. « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Et encore, saint Paul dit que aucune tentation ne peut nous conduire au-delà de nos forces. Nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Bon, vous avez la citation de 1 Corinthiens 10, 13, là. Ensuite, les armes dans le combat spirituel. Alors, on a vu, dans la lettre aux Éphésiens, un certain nombre de détails donnés, déjà. Donc, mais dans les armes qu'on peut préciser, on a la connaissance de soi. Donc vous lirez ce qu'il y a marqué là-dessus. L'ascèse, qui est une sorte de purification active par laquelle nous travaillons à réorienter dans le sens de Dieu notre potentiel vital afin de l'investir dans les œuvres de lumière plutôt que dans celles des ténèbres, dans la vie de l'esprit plutôt que dans les besoins de la chair. Et le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle au paragraphe 1434 que les trois formes privilégiées d'ascèse recommandées par l'Écriture et les Pères de l'Église, eh bien, c'est ce qu'on entend tous les ans au début du carême, le jeûne, la prière, l'aumône, qui exprime la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Dans également les aspects de l'ascèse, c'est, ou les armes importantes, c'est la prière nocturne. Prière nocturne qui répond à l'injonction du Seigneur « Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation ». Cette prière a une force toute spéciale. Vous le savez sûrement, elle est source de grâce pour soi-même et pour tous les hommes qui cherchent Dieu. Saint Jean Chrysostome va jusqu'à dire que cette prière de nuit enlève le péché. C'est quand même assez fort. Bon, après, évidemment, il y a la liturgie des heures, qui est très importante, et naturellement, au sommet de tout, l'Eucharistie. Le jeûne est un moyen qui contribue à lutter, à se défaire des anciennes habitudes, des anciennes dépendances. Après, pour certains, il y a les conseils évangéliques, hein, qui peuvent être choisis, soit en s'engageant, se consacrant dans la vie consacrée religieuse, ou bien encore, ça peut être par des laïcs qui le vivent, bon, sans pour autant faire des vœux, etc. Et puis, bien sûr, la vie théologale, et c'est le plus fondamental, le don de la grâce qui permet au baptisé de vivre en communion avec la source de son être et de vivre dans les bonnes mœurs par l'obéissance au Père des cieux. La vie sacramentelle, j'en ai déjà parlé, donc vous avez les différents sacrements, les sacrements de l'initiation, les sacrements de la guérison et les sacrements de la communion. Hein, les trois types de sacrements. Et puis, eh bien, on peut aussi souligner dans le combat spirituel l'importance des sacramentaux. Les sacramentaux, l'eau bénite, ça paraît toute chose, des choses comme ça. La vie fraternelle est bien sûr un moyen de lutter aussi. Les saints anges, voilà, les saints anges. Saint Isaac le Syrien dit, quand les anges nous approchent, ils nous emplissent de contemplation spirituelle. Toutes les adversités nous quittent, il se fait en nous une paix, une sérénité ineffable au temps où nous arrive de telles choses. Et puis pour conclure, eh bien, Christian Poirier propose deux très belles prières qu'on peut trouver dans le livre. Une au Christ, splendeur du Père, et la seconde à son ange gardien. Mais je pense qu'il faudrait aussi, puisqu'on est encore samedi, rappeler l'importance de la prière et la grâce mariale. Mais de mon point de vue, ça nécessiterait une retraite entière. Amen.
Merci.
C'est un peu un parcours